de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. On est à Dakar avec les étudiants de l'école supérieure Polytechnique. Salut les voisins, salut les voisines. On est très très heureux d'être ici. Les filles sont majoritaires dans cette école d'excellence. On est sur le campus de l'UQAD, de l'Université Charanta Diop, la grande Afrique, la grande université d'Afrique de l'Ouest, avec près de 80 000 étudiants. Mais si on prend l'ensemble du campus, on a seulement encore 37% de filles en moyenne dans toute l'université. C'est déjà beaucoup et c'est l'occasion de consacrer notre émission à cette nouvelle place des filles dans l'enseignement supérieur. Alors, est-ce que c'est presque le bout d'une longue route ? L'éducation des filles est un combat à l'échelle du continent. Mais au Sénégal, c'est vrai, les filles ont gagné des places au fil des années. Les voisins, les voisines, peut-être que vous, là, tous ensemble, filles, garçons, vous êtes assis les uns à côté des autres. Ça vous semble une évidence aujourd'hui, car les filles sont majoritaires ou à parité avec les garçons dans les écoles primaires, dans les collèges, dans certains lycées, dans les écoles de commerce privées. Elles se lancent maintenant dans les filières plus technologiques. Alors, quelles embûches, quels espoirs aussi sur cette route des diplômes ? On va parler, bien sûr, avec nos invités des politiques publiques au Sénégal, mais aussi des discussions dans les familles, de vos ambitions personnelles aussi, de vos carrières, les voisines. Et puis, comment est vécue cette mixité filles-garçons ? Bien sûr, les garçons, vous avez aussi la parole. Hein. On est, comment on dit déjà, en Wolof ? On est ensemble ? Niofar. Niofar. Je vous présente nos invités. Professeur Papa Aliou Ndiaye, directeur de l'École supérieure polytechnique. Merci de nous accueillir ici, chez vous, professeur.
Bonjour, Madame Bastide. Nous sommes très heureux de vous accueillir au niveau de l'École supérieure polytechnique.
Aïssatou Dieng Sarr, bonjour.
Bonjour, Madame Bastide. Très heureuse de répondre à votre invitation cet après-midi.
Pour nous, c'est un plaisir aussi. Ancienne inspectrice de l'éducation au Sénégal, ancienne directrice du projet d'appui à l'éducation des filles de 2006 à 2015. C'est-à-dire que pendant 9 ans, vous avez piloter ce projet pour mettre en musique une politique publique en faveur des filles. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite. On va regarder dans le rétroviseur avec vous, hein, Madame Dieng Sarr. Également avec nous, Halima Diallo, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Halima Diallo, vous êtes sociologue, psychologue, enseignante à l'UQAD, l'Université Charanta Diop. Vous avez 34 ans et vous avez écrit une thèse sur les femmes dirigeantes au Sénégal.
Et oui, c'est, ça.
C'est ça. Et également avec nous, Kofi Seniak Beto, bonjour.
Bonjour, Emmanuel.
Kofi, vous êtes analyste des politiques éducatives au pôle de Dakar, UNESCO, et vous allez aussi nous donner quelques chiffres pour qu'on comprenne mieux comment se situe le Sénégal par rapport aux pays voisins. Mais bien sûr, je vais commencer en donnant d'abord la parole au directeur de l'École supérieure polytechnique, Papa Aliou Ndiaye, professeur Papa Aliou Ndiaye. Aujourd'hui, les filles sont légèrement majoritaires à l'école polytechnique, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça. Donc, je voudrais d'abord, avant de poursuivre, donc vous remercier et puis vous souhaiter la bienvenue à l'école supérieure polytechnique. Saluer aussi toutes les étudiantes et les étudiants qui nous écoutent et ici. Effectivement, au niveau de l'école supérieure polytechnique, donc qui est une école d'ingénieurs et de managers, nous avons actuellement, en tout cas l'année dernière statistique, 50,2% de filles contre 49,8% de garçons. Alors,
C'est une et bonne donc, ou une mauvaise nouvelle pour...
Bon, c'est une très bonne nouvelle parce que de toute façon, nous, dans notre recrutement, nous recrutons effectivement les meilleurs étudiants. Et nous faisons un concours à travers tout le Sénégal, à travers les 14 régions du Sénégal. Et nous cherchons toujours donc les maires. Il se trouve qu'actuellement, les maires se trouvent parmi les filles. Alors effectivement, peut-être que plus tard, notre collègue va parler de comment cette transformation a eu lieu. Ça n'a pas été souvent le cas. Mais dans les départements de l'ESP, donc nous avons 6 départements, donc dont 5 départements dans le domaine de l'ingénierie, donc qu'on appelle le génie, et un département de gestion. Et dans le département de génie chimique et biologie appliquée, les filles représentent 68% de l'effectif total du département. En gestion aussi, on regroupe l'ensemble des métiers du tertiaire, marketing, comptabilité, ressources humaines, commerce, banque, assurance. Là, les filles sont majoritaires à 102%. Ah. Alors, les autres départements, effectivement, il y a des départements quand même qui traînent un peu la patte.
Oui, mais alors attendez, il y a des départements où il y a tellement de filles que vous m'avez confié au téléphone, je ne sais pas si vous allez le redire, que parfois, vous êtes presque obligé de faire de la discrimination positive pour les garçons. Sinon, il y aurait trop de filles. C'est vrai, ça ?
En fait, ce que j'ai dit aux étudiants, quand je vois l'engouement et puis l'engagement des filles dans les salles de classe, j'ai dit aux garçons, si vous ne faites pas attention, c'est vous qui allez chercher à vous regrouper pour qu'on vous applique la parité ici au Sénégal, parce que vous allez devenir minoritaire.
Et alors, quels sont les domaines, les filières où les filles ont encore du mal à se faire une place ou peut-être ne choisissent pas ces domaines?
Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des départements où on n'a pas beaucoup de filles. En génie mécanique, on a 15% de filles. Bon, là, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Mais dans les autres départements, quand même, en informatique, on a 41% de filles. En génie civil, 34%. En génie électrique, 32%. Donc, effectivement, les départements où vraiment les filles sont majoritaires, comme je disais tout à l'heure, c'est le génie chimique et biologie appliquée, où il y a l'industrie alimentaire aussi, et le département donc de gestion. Effectivement, les filles ne sont pas trop attirées par peut-être les métiers de mécanique. Bon, mais ça, je pense que ça va venir aussi, parce que de toute façon, on a quand même des étudiants, en tout cas les étudiantes que nous recrutons en génie mécanique, donc font partie aussi des meilleures.
Alors justement, puisque vous parlez de ces filières-là, du génie mécanique, je voudrais vous lire un message qu'on a reçu d'une étudiante qui ne pouvait malheureusement pas être là. Ndeye, elle a 21 ans, elle était fille unique de ses parents en dernière année d'ingénierie électromécanique. Elle a un père prof de maths. Et elle nous dit, j'ai passé un bac technique en 2015. On n'était que deux filles dans la classe. Quand je suis entrée ensuite à l'ESP, on n'était que quatre filles en génie mécanique pour 23 garçons. Une a été virée, l'autre a redoublé. Avec les garçons, c'était difficile, nous dit Ndeye. Ils me voyaient comme un garçon, parce que pour eux, le génie mécanique, ce n'est pas un métier de fille. Ma mère me disait, pourquoi tu ne fais pas un métier de fille? Elle était désespérée. Aujourd'hui, elle me dit, va chercher un mari. Moi, je dis qu'il faut se fixer des objectifs, se dire que tout est possible et que je veux exceller. Ma maman a été à l'école primaire, mais pas mes grands-mères.
Oui, enfin, je dois dire que les métiers aussi sont en train de changer, même en mécanique, parce que lorsqu'on parle de génie mécanique, on pense à des métiers pour gros bras. Donc, or, aujourd'hui, quand même, effectivement, avec l'utilisation du numérique, je pense que toutes les disciplines maintenant sont à la portée de tout le monde. Hein. Je pense que ça aussi, effectivement, c'est notre responsabilité aussi peut-être d'informer davantage donc l'ensemble des élèves ou des étudiants donc qui veulent venir chez nous, effectivement, en disant que il n'y a pas de métier réservé spécifiquement aux filles. Je pense que du moment qu'on a le niveau, parce que nous ce que nous cherchons effectivement, c'est avoir un bon niveau pour réussir au concours. Et une fois qu'on a le niveau, mais il n'y a aucun problème, vous pouvez faire n'importe quel des départements. Donc, je pense que ça va venir.
Alors justement, on va donner la parole à des étudiantes, à des étudiants. Ndoya, vous avez 27 ans, vous êtes ingénieur en biologie, vous êtes diplômée, vous travaillez dans une société de technologie et de services. Vous avez entendu le témoignage que j'ai lu de Ndeye. Comment vous avez vécu votre parcours scolaire en tant que fille au Sénégal?
Quand on est une fille, bon, on est stéréotypé. Dans le milieu professionnel, je continue un peu. Quand je suis arrivée dans le bureau d'études, bon, comme ingénieur en HSE, ce n'est pas facile. Quand on est une femme, arrivée, on te dit, ben, tu ne peux pas nous donner certaines obligations. En fait, il y a cette notion de genre en fait, qui se pose. Donc, tu es obligée de porter un manteau, de se fabriquer, entre guillemets, certains caractères. Parfois, c'est accueillant pour moi, je me dis. Pour moi, ce qui est important, c'est ce qui est dans la tête.
Qu'est-ce qui t'a manqué finalement? Qu'est-ce que tu aurais aimé là que tes petites sœurs puissent. De quoi elles pourraient bénéficier pour que ça soit moins difficile pour tes petites sœurs par rapport à toi?
Pour une fille, c'est la confiance en soi. Moi, je me dis que si tu as la confiance en soi, vraiment, bon, tu peux avoir des soucis, des contraintes, mais c'est juste un passe-temps, tu passes à autre chose. Parce que quand tu te connais, quand tu es face à la glace, tu te dis, eh bon, moi, je pèse lourd un peu.
Merci à toi, Ndeye. Merci.
Je remercie tout le monde.
Merci.
Merci beaucoup.
ton voisin, cher Amadou Bamba, et ami, tu es étudiant également, doctorant en géologie à l'université Cheikh Diop. Toi, tu nous as dit avant l'émission, mais non, moi, je ne vois pas le problème. Il n'y a plus de problème pour les filles.
Alors moi, quand je vois cette question, éducation, les filles enfin à égalité, j'ai envie de dire qu'au vu de ce que monsieur le directeur a dit, que, et oui, nous sommes à égalité entre hommes et femmes. Et ça, je peux le dire parce que avant même l'instauration de la loi sur la parité, qui veut qu'il y ait le même nombre de femmes et d'hommes à l'Assemblée nationale ou bien dans les municipalités.
Voté sous le président Ouad. Oui.
Sous le président Ouad. On a aujourd'hui au Sénégal des femmes qui sont acceptées dans l'armée nationale et dans les corps militaires. Ça, c'est une avancée significative. Aujourd'hui, de par mon expérience, je peux dire que quand je vois quelqu'un, je ne fais pas la différence si c'est une femme ou c'est un homme devant moi. Je vois un être humain. Et moi, je suis pour compétences égales. Donc, à compétences égales, il y a aussi bien des femmes compétentes que des hommes compétents. L'étudiante qui a témoigné, Ndaye, elle a dit qu'elles étaient 4 filles. L'une a été virée, l'autre a doublé la classe et les deux sont passées en classe supérieure. Mais il y a aussi des hommes à l'ESP qui se font virer.
Pas, oui.
Voilà. Il y a aussi des hommes à l'ESP qui continuent.
Donc,
pas.
En gros, tu dis de quoi se plaignent les filles?
Je ne dis pas de quoi elles se plaignent. Moi, je dis en gros que il y a une égalité entre hommes et femmes au niveau de l'éducation. Après, dans la vie professionnelle, c'est autre chose. Que certains hommes aient une autre mentalité, c'est autre chose. Mais du côté de l'éducation, quand même, le Sénégal a fait des avancées significatives qui fassent que hommes et femmes, nous avons la même éducation.
Ouais. Alima Diallo, sociologue, est-ce que vous voulez réagir déjà par rapport au témoignage qu'on a entendu de Ndoya? Et puis après, on va regarder vraiment les chiffres et les statistiques de plus près.
Alors moi, je reviens sur une recherche que j'avais menée en entreprise sur des femmes. Et pour reprendre le sociologue français Pierre Bourdieu, les femmes ont tendance en entreprise à faire ce qu'on appelle les moins métiers des métiers, parce que les vrais métiers sont des métiers d'hommes. Et donc j'ai pu constater sur le terrain que majoritairement ces femmes, elles étaient exécutantes, elles faisaient un travail féminin où on leur demandait de mettre en avant leurs aptitudes féminines. Et donc j'ai été en immersion dans cette entreprise, j'ai fait un stage et je me suis retrouvée à faire le même travail que ces femmes. Et j'étais vraiment frustrée de le faire, contrairement à ces femmes qui n'avaient pourtant pas l'air malheureuses de refaire tous les jours ce qu'on peut appeler un travail ingrat, un travail répétitif, un travail féminin et qui ne laisse surtout pas de traces. Et ce n'est qu'à la fin de mon stage, au moment où je faisais les entretiens, que je me suis rendu compte que ces femmes, elles étaient surdiplômées pour le travail qu'elles faisaient. Et donc, elles ont dû, en fait, sur le terrain, faire semblant d'être épanouies à faire ce travail, alors qu'elles étaient vraiment, on va dire, dégoûtées. Et donc, elles disaient, il faut être un homme pour avancer, il faut être un homme pour avoir une promotion. Et donc, on mesure la différence entre le diplôme et une fois la place qui est accordée aux femmes en entreprise. Et aussi, j'aimerais ajouter que j'ai eu à interviewer une fille qui a une formation très technique. Et en fait, on mesure toute la difficulté pour les femmes qui font un métier d'homme de s'imposer. Donc, il y a une différence entre les études et après, à la sortie, comment ça se passe.
Et tout ça, ça ne se voit pas tellement aussi dans les chiffres et dans les statistiques.
Oui,
hein, parce qu'il faut mener des interviews, des rencontres bien plus intimes pour mieux comprendre ce qui se passe. Kofi Seniak-Beto, vous êtes statisticien, justement, de l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous dire, par rapport à cette situation aujourd'hui, plus de filles à l'école polytechnique, elles sont nombreuses là dans l'amphithéâtre de l'école polytechnique à l'UQAD, d'où on revient au Sénégal?
Nous sommes fiers de tout ce parterre de jeunes gens, de jeunes filles, de jeunes garçons devant nous, mais avoir des filles à l'école, à l'université surtout, n'est pas si courant que ça il y a quelques années. Dans la génération de vos papas et de vos mamans, ce n'était pas si courant de voir des jeunes filles représentées comme on le voit ici à l'UQAD. Grosso modo, hein, en chiffres, il y a 20 ans, il y a environ 20 000 filles dans l'enseignement supérieur ici au Sénégal. Actuellement, il y en a environ 80 000 et c'est une multiplication par 4. Et ça a fait que la proportion de filles est autour de 40-42% aujourd'hui au Sénégal, ce qui est un progrès formidable. Ce n'est pas si évident que ça de voir un tel progrès arriver. Et cela dit, il faut dire que la marche des filles, il faut la placer dans une perspective sous-régionale. Le Sénégal a fait beaucoup de progrès et beaucoup de pays également dans la sous-région ont fait beaucoup de progrès. Et même si le Sénégal n'a pas rattrapé le niveau, par exemple, du Cameroun ou bien de la Tunisie, du Maroc, ça, c'est des progrès importants qu'il faut souligner, qu'il faut mettre en avant des politiques et des sociologues, des activistes.
Alors, on l'a dit, les filles sont aujourd'hui majoritaires dans les écoles primaires au Sénégal, en moyenne.
Ça, c'est évident. Les filles ont même, au niveau national, dépassé les garçons, au niveau du primaire et au niveau du secondaire. Ça, les chiffres ne mentent pas là-dessus.
Pour le collège, c'est toujours, effectivement, elles sont majoritaires. Qu'est-ce qui se passe à l'arrivée au lycée ?
Alors, c'est là, effectivement, que les problèmes sociologiques, tels que vous le souleviez tout à l'heure, interviennent et malheureusement, freinent encore la marche des filles. Mais ça ne fait que la freiner. Ça ne peut jamais l'arrêter. Cette marche, elle est lancée. Elle ne peut pas s'arrêter. Et avec l'appui de tout le monde, je crois que les filles, bientôt, iront à l'égalité avec les garçons à tous les niveaux du système éducatif.
Et pour le baccalauréat, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, le baccalauréat, et le directeur de l'UCAD l'a vraiment dit, contrairement aux idées reçues, les filles ne sont pas moins intelligentes que les garçons. Les filles et les enquêtes d'évaluation ont toujours montré en Afrique, au Sénégal, en Afrique et bien au-delà de l'Afrique, que les filles performent mieux davantage que les garçons. Au baccalauréat, les statistiques sont là. Hein. Les filles performent sinon autant, en général, mieux que les garçons.
Est-ce qu'à l'échelle nationale, vous diriez néanmoins que les filles font quand même des études plus courtes quand elles accèdent à l'étude supérieure ? Est-ce qu'on a plus de filles qui restent à Bac plus 2 quand les garçons vont plus loin ou c'est une idée fausse maintenant ?
En tout cas, dans certains départements, on a toujours les mêmes proportions. Comme par exemple, si je prends le département de gestion, il y a dans une licence 94 filles pour 56 garçons. Donc ça, c'est Bac plus 3. Ensuite, on a un master gestion des institutions financières. On a 66 filles pour 33 garçons. Donc, ça veut dire effectivement que même au niveau donc, du deuxième cycle, on trouve encore des filles. Effectivement, ça, c'est une réalité chez nous.
On va vous donner la parole dans quelques instants, mais surtout, on va aussi donner la parole à cette ancienne inspectrice de l'éducation, puisque Aïssatou Diengsar, vous avez piloté le projet d'appui à l'éducation des filles pendant près de 10 ans. Mettre en musique la politique publique du Sénégal, on y revient dans quelques instants, et après, les étudiantes et les étudiants, bien sûr, vous exprimez.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Vous écoutez 7 milliards de voisins, on est sur RFI et on est sur le campus de l'université Charanta Diop à l'école supérieure polytechnique. Merci à vous tous d'être là, les étudiantes, les étudiants. Et on regarde un peu dans le rétroviseur aujourd'hui, finalement. Ce qui vous semble une évidence aujourd'hui de cohabiter, de travailler les uns avec les autres, garçons, filles, de peut-être mettre en parallèle vos ambitions respectives, comme si tout cela allait de soi. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on découvre hein, avec notre ami statisticien de l'UNESCO. On va donner maintenant la parole à Aïssatou Diengsar. Vous avez commencé votre carrière comme enseignante au préscolaire à Dakar, et puis vous avez gravi tous les échelons. Vous avez terminé directrice du projet d'appui à l'éducation des filles de 2006 à 2015.
Oui.
Et quels obstacles vous avez dû lever ?
On a levé beaucoup d'obstacles. Parce que vers les années 90, les taux de scolarisation des filles tournaient aux environs de 44%. Des études ont montré que les obstacles liés à la demande d'éducation, c'était souvent les mariages précoces.
Alors, comment vous avez travaillé sur le terrain ? Dans les familles, auprès des enseignants, qu'est-ce qui a été mené comme action ?
Des actions de sensibilisation, de mobilisation, parce qu'on avait mis en place un plan de communication. Et avec ce plan de communication, nous avons eu à faire des caravanes, des visites à domicile, des focus group, des forums, pour informer les parents, pour les sensibiliser sur l'utilité de l'école. Il fallait aussi recueillir leur perception par rapport à l'école. Et bizarrement, les parents reconnaissent que l'école est utile, que la fille qui est scolarisée a, en tout cas, est une actrice de développement. Mais malheureusement, ils étaient freinés. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient pauvres. Il y a la pauvreté qui fait que les parents retenaient les filles à l'école et envoyaient les garçons.
Oui. Certains aujourd'hui, parents... ça semble loin quand même, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une évidence quand même dans une bonne partie du pays. Oui. Kofi Seniak-Beto, vous voulez intervenir ?
Oui, effectivement, la marche des filles, la scolarisation des filles a connu beaucoup de progrès ces dernières années. Et je voulais souligner une politique que beaucoup de pays africains ont mise en place, qui est la politique de gratuité dans l'accès à l'éducation de base. Beaucoup de pays ont pris cette mesure, bon, pour bien d'autres raisons, mais principalement pour enlever cet obstacle de manque de ressources, de manque de financement qui empêchait beaucoup de familles de scolariser leurs enfants filles en particulier. Cela dit, il reste encore un grand problème de financement. Les pays africains doivent continuer à financer davantage l'éducation et notamment à trouver des moyens innovants. Oui. Et des moyens innovants, il y en a beaucoup, hein, et principalement en faveur des filles. Oui.
Aïssatou Diengsar, quelles étaient vos relations pendant ces années de campagne pour la scolarisation des filles? Quelles étaient vos relations avec les enseignants? Comment ça se passait avec eux?
Avec les enseignants, nous avons eu à les appuyer sur le plan pédagogique. Parce que là, il fallait quand même qu'ils soient conscients de leur rôle, c'est-à-dire comment traiter équitablement filles et garçons.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passait sur le terrain ?
Il fallait, par exemple, dans la répartition de la classe, il fallait prendre en charge la spécificité de la fille. Parce que là aussi, la fille a une spécificité. Au niveau de l'environnement scolaire, aussi, il fallait agir. Parce qu'avec les toilettes séparées, parce que les filles avaient tendance à s'absenter lorsqu'elles étaient en période de menstrues. S'il n'y avait pas de toilettes séparées, elles restaient à la maison. Donc nous avons fait un plaidoyer et maintenant, presque dans toutes les écoles, les toilettes, les blocs sanitaires sont séparés. Bon, au niveau aussi de la répartition des tâches, comme je l'ai dit dans les classes, il faut que les filles et les garçons soient traités sur le même pied d'égalité.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, pour ce qui est... D'habitude, on disait que les filles qui devaient balayer, c'est les garçons qui devaient effacer le tableau, c'est les filles qui devaient faire ceci. Là, on leur a dit, dans nos formations, que filles et garçons sont égaux.
Oui.
Au niveau des manuels également, nous avons traqué les stéréotypes sexistes. Parce que les images peu valorisantes chez les filles, on a essayé de le voir avec les concepteurs des programmes et dans les manuels. Parce que partout, on regardait dans certains livres des filles qui lavaient la vaisselle, les filles, la vendeuse de cacahuètes, la vendeuse de bananes. Et il fallait aussi montrer que la fille peut être pilote.
Oui.
Donc ça aussi, on a agi sur nos manuels. On a agi également sur nos programmes, pour que, comme je l'ai dit, pour que l'enseignant sache que filles et garçons doivent être traités de manière égalitaire.
Kofi Seniak-Beto, qu'est-ce que, avec le recul, quand vous regardez la place du Sénégal, qui a nettement plus progressé que les pays de la sous-région, notamment par rapport au Burkina Faso, qu'est-ce qui a été déterminant dans cette route vers l'égalité pour les filles à l'école?
Il est clair, et je le disais tout à l'heure, que le Sénégal, vous vous rappelez qu'en 2000, s'est tenu ici même à Dakar un forum mondial sur l'éducation pour tous. Et Dakar a été l'élément moteur. Le Sénégal a été le pays phare dans cette lutte en faveur de l'école pour tous. Et le Sénégal a été l'un des premiers pays à mettre sur pied des politiques en faveur de cette égalité. Quand on dit égalité pour tous, ça veut dire tout le monde, c'est-à-dire garçons et filles. Donc du coup, finalement, le Sénégal a mis en place les politiques qui
n'a jamais été remise en cause aussi avec les alternances politiques.
Jamais. Ça, s'il y a eu un consensus... c'est autour de cet objectif de l'éducation-là. Aussi bien les politiciens de tous bords se sont accordés pour donner à l'éducation la place qu'elle mérite dans le développement du pays.
Alors, je le disais, il y a quand même moins de 40% de filles si on prend la totalité des effectifs de l'université Charanta Diop. Donc, on n'est pas tout à fait arrivé au bout du chemin. Il y a encore des problèmes. Vous les avez décrits. On vous donne la parole, les voisins, les voisines. Dans quelques instants, le micro va circuler chez 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète, 7 milliards de frères et de sœurs.
Avec nous, une voisine qui veut prendre la parole, on va vous apporter un micro.
Bonjour à tous, je m'appelle Binta Yani, je suis un génie des procédés alimentaires en 4e année. Moi, ce que j'aimerais bien rajouter, j'ai beaucoup écouté vos statistiques, et on voit que c'est des statistiques encourageantes. Mais la remarque que je fais, c'est que les filles, en fait, c'est déséquilibré. Certes, il y a beaucoup de filles dans l'enseignement supérieur, mais c'est plus dans des filières où ce n'est pas vraiment équilibré. Et moi, le conseil que j'aurais donné, ce qui a beaucoup marché avec moi, c'est de mettre des femmes dans les sciences qui inspirent d'autres femmes comme nous. Moi, j'ai envie de voir une doctorante qui passe en classe, me faire des discours, m'inspirer, me donner envie de continuer, d'aller plus loin. Ça a été le cas pour moi. Je l'ai vécu et je sais que ça a marché. Par exemple, nous-mêmes, pourquoi ne pas monter un collectif, aller dans les lycées, dans les collèges, dans les primaires et dire à nos petites sœurs, je suis là, me voilà, j'ai réussi. Je suis une leader, je suis une femme, je suis quelque part. Pourquoi ne pas le faire? On aime bien politiser l'éducation, mais ça doit commencer par nous, nous à notre niveau. Pourquoi ne pas faire chacun impacte comme il peut? Certes, le gouvernement fait ce qu'il peut, mais il faut que vous vous sortiez de l'ombre. Il faut que des dames comme vous qui êtes là sur le devant de la scène, que vous veniez nous voir plus souvent. On a besoin de vous. Et autre chose que j'aimerais rajouter, c'est un petit constat que j'ai fait. C'est qu'il y a beaucoup de femmes dans l'entrepreneuriat. Vous dites que vous nous empêchez sur le plan professionnel, il y a des blocages. Orientez-vous vers l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de femmes, elles n'arrivent pas à trouver un job. Elles créent le job, elles emploient d'autres femmes et elles réussissent.
Attends, on va te repasser le micro. J'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur ton propre parcours. Qui t'a donné cette confiance ?
Bon, moi, je n'ai pas vraiment eu de moment analphabète ou déscolarisé. Ma maman a été à l'école, mais c'est vrai qu'elle n'a pas vraiment été ambitieuse. Elle n'a pas voulu faire ce doctorat de rêve. Et à chaque fois que moi, je lui parlais de mes ambitions, elle me disait, mais fonce, toi, tu peux accomplir ce que moi, je n'ai pas pu accomplir. Et mon papa aussi, il m'a beaucoup incité à lire. Mais c'est vrai que dans mon entourage, j'avais des gens, par exemple, qui ont été découragés et tout. Je ne veux pas généraliser à mon cas. Et j'ai eu aussi la chance de rencontrer plein de gens dans mon parcours, des femmes entrepreneurs. Mais c'est aussi d'un côté parce que j'ai cherché. Je ne me suis pas assise, je ne me suis pas dit, je suis une fille, je reste dans mon coin, on va me dire bac plus 2, c'est fini. J'ai refusé. J'ai décidé que je veux faire 2 doctorats et personne ne pourra m'empêcher de faire 2 doctorats. Si je veux en faire 5, j'en ferai 5 et je cherche les gens qui vont m'aider à faire 5 doctorats. Je n'ai pas besoin de ceux qui me disent bac plus 2.
Ceci dit, vous pouvez nous redire un chiffre. Dans vos enseignants, combien de femmes en pourcentage ?
Alors ça, effectivement, je suis un peu fier par rapport à ça. Mais on a 2 chefs de département sur les 6. Donc ça, c'est nouveau, vraiment, oui. Au niveau de l'école supérieure polytechnique.
Il y a encore du chemin à parcourir. Et à l'échelle de l'UCAD, les femmes enseignantes, professeurs, titulaires.
Voilà,
je vous pose la question, Halima Diallo. Elles sont très, très minoritaires encore.
Alors, elles sont très minoritaires. Pour le cas du département de sociologie, il n'y a qu'une seule femme titularisée.
Wow. Oui,
tout le reste des hommes. Et moi, j'avoue que j'ai commencé mon parcours ici au département, à l'université Charpentin Diop de Dakar. Au début, quand j'étais en première année, ça ne me choquait pas de ne pas trouver une femme. Et au fur et à mesure, quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux études du genre, au travail des femmes, j'ai commencé à me révolter, à me dire « mais c'est pas normal ». Et aussi, quand on creuse la question, par exemple, au bac, les sujets d'examen en français, c'est toujours la littérature masculine qu'on nous cite. Et aussi en sociologie, jusqu'à présent, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les auteurs masculins. C'est comme si, en fait, les femmes n'avaient rien accompli, ou c'est comme s'il n'y avait pas une recherche sur les femmes. Et en revenant sur ma thèse, les femmes dirigeantes, on se rend compte combien il y a des femmes qui ont marqué l'histoire africaine, mais on n'en parle pas, et voilà. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
On repasse le micro dans la salle. Jerry, il y a une voisine qui veut s'exprimer.
Moi, c'est Delphine Diaye, ici étudiante au département de gestion en 2e année. Donc moi, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit madame qui vient de parler tout de suite.
Halima Diallo.
Donc être une femme ici, surtout dans mon continent, c'est tout un parcours du combattant. Donc c'est depuis la naissance déjà. Nous sommes stéréotypés. Vous devez rester à la maison. Vous êtes des femmes au foyer. Vous devez vous occuper de vos maris, de vos enfants. Donc quand je vois des femmes se lever, prendre la parole, prendre la main, se lancer dans l'entrepreneuriat et faire accomplir des choses magnifiques, vraiment je me dis que le continent a fait un bond de géant par rapport à plusieurs années en arrière.
Si on regarde ta maman par exemple.
Oui, ma maman déjà, elle n'était pas alphabétisée, mais elle s'est battue contre notre belle famille pour pouvoir nous mettre à l'école car elle a principalement eu des filles comme enfants. Donc, toute la belle famille était là pour qu'elles aillent suivre un métier, pour qu'elles puissent te rapporter plus tard. Ouais. Mais elle, elle a dit non, je ne suis pas alphabétisée, mais je me battrai pour que mes enfants puissent bénéficier de la chance que je n'ai pas eue.
Ça veut dire que ta maman n'a jamais été scolarisée.
Jamais, jamais.
Et toi, tu es aujourd'hui à l'école supérieure polytechnique.
Vraiment, oui. Et pour cela, vraiment, je la remercie. Je la remercie beaucoup.
En une seule génération, là, voilà, on a eu toute l'histoire de la longue route des filles vers l'éducation, vers une meilleure place dans l'enseignement supérieur. Jerry veut prendre la parole dans la salle.
En fait, j'ai un peu écouté ce que tout le monde a dit. Je pense que je vais revenir de manière globale sur ce qui a été dit. Déjà, je pense que, comme monsieur l'a dit, on peut se féliciter de tous les efforts qui ont été faits jusque-là. Mais je pense qu'on est encore très loin de l'objectif final. Et ce serait dommage de se contenter des acquis qu'on a ici. Je pense que beaucoup d'exemples qui ont été donnés sont des exemples qui sont propres à la zone urbaine. Mais moi, je voudrais qu'on parle de la zone rurale. En zone rurale, ce n'est pas que les gens ne veulent pas. L'envie y est. Mais comme le directeur l'a dit tout à l'heure, c'est le manque d'information. Les jeunes filles qui sont là-bas ne sont pas informées. Moi, j'ai la chance d'avoir été dans la zone rurale où on fait beaucoup de programmes d'initiation des jeunes filles aux technologies, aux sciences et tout ça. Et rendez-vous compte que les jeunes filles, lorsqu'elles viennent en classe, elles sont fatiguées. Comparé aux garçons. Quand vous leur demandez, elles vous disent « Oui, je me suis occupé des tâches ménagères avant de venir. » La plupart ne mangent pas, alors que les garçons, ils ont tout leur temps, ils jouent au foot, ils mangent. Ensuite, à midi, lorsqu'on a la pause sur place, il y en a certaines qui sont obligées de rentrer parce qu'on les attend à la maison pour des tâches et elles doivent revenir. Et ça, elles le font à la marche. Elles parcourent des kilomètres à la marche. L'après-midi, elles reviennent et le soir, elles doivent rentrer encore s'occuper du ménage. Et dites-vous que parfois, il y a un cas, moi, qui m'a choqué où il y a un parent d'élève. Et d'ailleurs, c'est une mère qui est venue chercher, elle avait 3 enfants, et elle est venue chercher les 2 filles, et elle a laissé le garçon, parce qu'il y avait un souci à la maison. Et justement, on lui a dit, mais pourquoi est-ce que, même si vous voulez en amener 2, pourquoi vous n'amenez pas un garçon et une fille? Et elle a dit, parce que le garçon est plus intelligent. Et on lui a dit, mais sur quoi est-ce que vous basez ça? Et justement, le garçon, parmi les 3, était celui qui assimilait le moins tout ce qu'on disait. Donc c'est vraiment un problème d'information, et c'est un problème sociétal, parce que, OK, aujourd'hui, il y a de la représentativité dans les classes et tout ça, mais ça ne suffit pas. Il faut déjà qu'à la base, qu'il y ait un travail qui ait été fait, que les filles comprennent qu'elles peuvent aller loin. Et une fois qu'elles ont leur diplôme, qu'elles ont leur doctorat également, l'insertion professionnelle est importante. Ça ne sert à rien qu'il y ait cette représentativité-là, que les filles soient bien représentées et tout ça, mais qu'une fois qu'elles ont leur diplôme, justement, que ce qui se passe après les décourage. Parce que lorsque ça les décourage, leurs petites sœurs voient ça, et justement, ça ne leur donne pas envie de fournir autant d'efforts que les grandes sœurs. Et on va également parler de la représentativité. Moi, je le dis tout le temps, je n'ai jamais eu de prof femme. La seule fois où dans notre université on nous a ramené une prof femme.
Dans quelle université ?
C'était à Ithaca, c'était une université privée. La seule fois où on nous a ramené une prof femme, c'était pour enseigner les langues. Et ça rejoint encore ce qu'on dit une fois de plus. Dans la plupart des domaines, les femmes sont reléguées à tout, à ce genre de matière et tout ça. Ouais. Et génie mécanique, je pense quand même que c'est, pour moi, je pense vraiment que c'est quelque chose qui intéresserait des femmes. Mais c'est juste qu'elles ne savent pas comment y accéder. Et monsieur le directeur, je vais vous demander, si vous faites des tournées nationales, d'aller dans la zone sud du pays. Vous avez un contingent de femmes qui sont intéressées par toutes ces choses-là. Vous savez, ces jeunes filles, lorsque vous leur demandez ce qu'elles veulent faire plus tard, elles vous disent, je veux être sage-femme, je veux être institutrice. Parce que c'est juste ce qui existe dans leur entourage proche. C'est ce que les gens de leur famille font, c'est ce que les gens qui sont autour d'elles font. Donc elles n'ont aucune idée de ce que les femmes font dans la capitale. Déjà que même dans la capitale, il reste encore des efforts à faire, mais la capitale est beaucoup plus avancée que les personnes qui sont dans le monde rural. Et il y a une anecdote par laquelle je veux finir pour parler des questions de grossesse et tout ça, parce que les parents sont unanimes dans la zone rurale sur le fait que c'est plus avantageux d'investir sur les garçons. Si on a les moyens d'envoyer qu'un seul enfant à l'école, on envoie le garçon. Les filles sont mises
encore
de côté.
Aujourd'hui.
Voilà. Et ce qui a été fait, c'est qu'il y a des clubs de jeunes filles qui sont lancés dans certaines régions. Et il y a le club de Bombay où il y a un pacte qui a été signé entre les jeunes filles et les parents. Donc le pacte, c'est que les jeunes filles s'engageaient à ne pas tomber enceinte et à ramener des bonnes notes et à ne pas redoubler. Et les parents s'engageaient à ne pas parler de mariage tant que l'envie ne venait pas de la fille et qu'elle n'était pas majeure. Donc c'est de petites actions comme ça, mais qui ont quand même leur impact, qui font leur différence, et c'est des choses qui marquent. Je pense que c'est vraiment au-delà du fait d'amener les gens dans les salles de classe, c'est vraiment un changement de mentalité qui doit être fait. Et il faut également que dans cette part justement d'investissement qui est fait dans l'éducation, qu'il y ait une grande part qui soit faite dans tout ce qui est changement de mentalité pour permettre aux gens de mieux comprendre ces problématiques-là. Merci.
Jerry, attends, j'ai encore une question à te poser.
Oui.
Tu parles comme un leader. Tu as 23 ans. Ouais. Comment tu as pris conscience de tout ça?
Je pense que le cocon familial m'a énormément aidé. Moi, je suis béninois et je viens d'une famille où il n'y a pas cette différence-là entre garçons et filles, justement.
Ah bon?
J'ai une petite sœur aujourd'hui qui vient d'avoir son bac et qui s'est lancée dans du génie électrique et qui également touche à l'informatique. Et je pense que ça, c'est vraiment important. La base, en fait, la famille de base, parce qu'on a l'habitude de dire la famille est la représentation que l'homme et la femme aura demain de la société. Donc, ce qui se passe de base dans la famille, on le néglige souvent, mais c'est quelque chose qui est vraiment important. Ma mère n'a pas été... elle a été à l'école, mais elle n'a pas été si loin. Elle n'a même pas eu son CFFE, donc elle n'est pas arrivée au niveau CM2. Mais elle a ses sœurs qui sont arrivées assez loin quand même. Et sa petite sœur, justement, est une des personnes qui a le plus réussi dans la famille. Et du coup, ça a été des exemples qu'on a très tôt donnés à mes petites sœurs, à mes cousines, à mes cousins et à moi aussi.
Jerry, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tu es féministe ?
Oui, je pense. Il y a quelques années de ça, je n'étais pas carrément en phase avec ce mot, mais je pense que oui, de plus en plus. Et je voudrais d'ailleurs dire que, parce que tout à l'heure, cher Amadou Bamba parlait du fait que les efforts étaient faits. Mais pour moi, aujourd'hui, il ne suffit pas de faire les mêmes efforts pour les garçons et pour les filles. Parce que ce serait pour moi être hypocrite et ne pas reconnaître toutes les injustices que les filles ont vécues depuis la nuit des temps. Et pour moi, pour arriver à une égalité, justement, on a besoin d'investir plus dans les femmes pour qu'elles puissent atteindre l'égalité. Et une fois que l'égalité sera atteinte, on mettra les compteurs à zéro et on pourra investir la même chose.
Mais quel est l'intérêt des garçons comme toi ?
Je pense que... Non, pour moi, il y a un intérêt. Pour moi, les garçons, ils sont là. Il y a déjà le patriarcat qui fait que, d'office, lorsqu'on vient, on a des aptitudes que les gens pensent qu'on a. Lorsqu'on rentre dans une salle de classe, pour moi, c'est vrai que c'est différent pour une femme que pour un homme. Pourquoi ? Parce que, justement, il y a cette perception du fait que l'homme impose une certaine virilité et tout ça. Donc, ça intimide de suite les femmes. C'est pas qu'une femme est dans
Mais pourquoi, toi, t'as intérêt à ce que les lignes bougent, toi, en tant que garçon ? Que les filles prennent des places que tu pourrais prendre.
Parce que je pense que c'est une question de droits humains, tout court. C'est leur droit. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais être inquiété. Comme on dit, on aime tout le temps dire, lorsqu'on est garçon, que c'est ce qui est dans la tête qui compte. Donc je pense qu'on ne devrait pas avoir peur du fait que les filles, justement, aient accès à leurs droits. Si nous, également, on est confiants de ce qu'on a dans la tête, je pense que, justement, c'est les hommes qui ne sont pas assez confiants en eux et qui n'ont pas confiance en le potentiel qu'ils pourront, qui ont peur du fait que les femmes, elles, aient accès à leurs droits.
Merci à toi, Jerry, on peut t'applaudir. Kofi Seniak-Beto, vous qui êtes économiste de l'éducation, on a mentionné le Bénin. La situation au Bénin est-elle finalement plus simple pour les jeunes filles ?
Non, comme je le disais tout à l'heure, le Sénégal surpasse sur cette question-là bien d'autres pays africains, dont le Togo, le Bénin, et qui ne sont pas si loin que ça, mais qui sont un peu derrière. Je voudrais rebondir un peu sur sa remarque très intéressante sur la situation des filles, notamment en milieu rural. Ce sur quoi on n'insiste pas assez, c'est que, bien sûr, il y a ce problème de genre, mais il y a aussi la dimension de la pauvreté liée aussi au milieu rural. Vous savez que c'est dans les villages, c'est dans les communautés rurales que vivent la majorité des pauvres ici en Afrique. Et quand vous êtes pauvre, vous êtes rural et vous êtes fille, la chance que vous accédez à l'école, ça se diminue par 3.
Ça s'appelle la triple peine, là.
C'est la triple peine pour les filles, notamment celles qui vivent en milieu rural. Et pour ça, les pouvoirs publics doivent faire un effort très, très important. Je voudrais quand même, à ce niveau, rappeler qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits au niveau international et au niveau... vous vous rappelez au dernier... sommet du G7.
À Biarritz,
les grands de la planète se sont mis d'accord pour mettre le genre, l'égalité du genre au centre des politiques publiques et notamment à travers les actions en faveur de l'éducation. Et l'équipe technique internationale en charge de ce dossier se trouve ici au Sénégal. Et il est aux côtés du gouvernement ou des autres gouvernements pour booster les initiatives en faveur du genre. On parlait tout à l'heure du curriculum caché, c'est-à-dire des réformes qu'il faut faire au sein même des manuels scolaires pour que les filles reprennent la place qui leur revient dans la société, non pas seulement dans l'éducation, mais dans la société. Donc ces efforts-là sont en train d'être faits au niveau international pour permettre aux filles de gagner la place qui leur revient.
Halima Diallo, donc vous êtes sociologue, vous avez un peu parlé de votre parcours, vous avez fait cette thèse sur les femmes dirigeantes au Sénégal, des femmes cadres supérieurs, vous avez rencontré des femmes dans des milieux très différents, hein, aussi bien artistiques, des femmes dans la police, c'est ça?
Oui, c'est ça. Préfète, commissaire de police, femmes politiques, femmes universitaires qui occupent certaines fonctions, voilà, très haut placées.
Ouais. Des femmes qui d'habitude ne s'expriment pas sur leurs difficultés en tant que femmes dans les médias,
oui,
qui vous ont parlé. Qu'est-ce que vous avez constaté principalement? Est-ce qu'aujourd'hui, on continue d'avoir une vraie pression sociale sur la réussite personnelle, la réussite du mariage?
Alors, lors de ces interviews, nous sommes revenus sur les itinéraires professionnels, le choix des études, l'autorisation des parents et aussi le travail, la pression. Et quand on est une femme, comme une intervenante l'a dit tout à l'heure, c'est le parcours du combattant. Déjà, on ne vous attend pas dans ce corps de métier et donc tous les jours, vous êtes mise à l'épreuve par vos collaborateurs et par vos collaboratrices. Et il est encore plus difficile de manager des femmes parce que les femmes sont moins obéissantes.
Et on on a compris avec les témoignages là, ouais. Hein, ça va pas être facile, hein, quand elles vont arriver au boulot.
Oui. Donc déjà les femmes sont moins obéissantes, elles ne soutiennent pas vraiment une femme aussi, voilà, directrice. Donc c'est très compliqué. Et
vous voulez dire que les femmes se tirent une balle dans le pied?
Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Donc déjà
ça, ça change pas.
Ça change pas. Il y a un manque de solidarité qui a été souligné. Les femmes ne s'entraident pas. C'est encore plus compliqué. Donc, il est plus facile de travailler avec des hommes pour les femmes qui sont dans des univers très masculins, très haut placés. Et en ce qui concerne le travail, il a été quand même difficile de faire parler ces femmes parce qu'elles veulent préserver cette image de la femme leader. Et vu qu'elles sont très, très médiatisées, donc il leur est difficile de dire comment ça se passe, sauf pour les femmes retraitées qui ont accepté de revenir sur leur parcours.
On vous redonne la parole. Qui veut prendre la parole? Astou, vas-y.
Par exemple, l'année passée, je devais partir en stage, par exemple. Le premier jour, ce qui m'a marqué, c'est que mon maître de stage devait me présenter au personnel. Donc, le choc que j'ai eu en premier, c'était... je parvenais en fait à compter les têtes féminines dans la salle où j'étais. Donc, j'étais dans le département de factory and IT delivery. Donc, ce n'était pas évident.
Tellement il y avait peu de femmes.
Oui.
Tu pouvais les compter.
Oui. Je me rappelle, c'était 5 femmes. Il y avait tellement de têtes rasées aussi.
Des têtes d'hommes.
Voilà. Rasées, des crânes rasés, quoi. Donc, ça m'a aussi choquée, histoire de voir qu'il y a des entreprises qui ne parviennent toujours pas à voir des filles y accéder, hein, et s'imposer. Merci.
Merci à toi, Astou. Merci. Pas évident de raconter son stage, hein, quand ça s'est passé de cette façon-là. Les voisines, derrière.
Je m'appelle Sorna Maimona Diop. Je suis élève ingénieure en réseau télécom. Alors, c'était par rapport à l'intervention de ce monsieur-là. Vous lui avez demandé tout à l'heure quel était son intérêt pour que les femmes soient devant. Moi, je me dis que les hommes ont tout intérêt à ce qu'on soit devant. Tout simplement parce qu'actuellement, être une femme, c'est un capital. Un capital, pourquoi? Parce qu'actuellement, on est à 50,2% de femmes contre 48% d'hommes. Donc, est-ce que vous pensez que confiner les femmes à un statut de femme au foyer ne serait pas nous enchevêtrer davantage dans la pauvreté? Question ouverte. Donc, juste au vu de ça, je me dis que les hommes gagneraient beaucoup à ce qu'on soit devant. Mis à part cet aspect-là, je voulais intervenir par rapport à ce que Mme Halima Touré a dit tout à l'heure. Elle parlait du fait que l'État a fait beaucoup d'avancées par rapport à la scolarisation, au maintien des filles, tout ça. Sauf que moi, je me dis que le problème, il est autre. Je vois égalité entre hommes et femmes. Sauf que ce qu'on doit faire, c'est retourner à la souche. Parce qu'il y a de nombreux clivages socioculturels, parce que la femme est vue comme subalterne de l'homme. Donc, pourquoi ne pas rééduquer ces hommes et leur montrer qu'on doit briser le moule dans lequel on nous a mises. Il faut oser les carrières professionnelles, parce qu'il n'y a que comme ça que nous arriverons au développement que nous souhaitons vraiment. Merci beaucoup.
Merci à toi, Sorna. Bon, bah, en tout cas, le titre de l'émission, c'était « Éducation, les filles, enfin à égalité ». Je crois que là, on peut revoir un peu notre copie. Hein. Merci pour votre franchise. Merci pour tous vos témoignages. Les voisines et bien sûr les voisins, on va laisser maintenant la conclusion à nos invités. Kofi Seignac-Beto, comment vous réagissez par rapport à ce que vous avez entendu aujourd'hui? L'éducation, les filles, enfin à égalité. Alors est-ce qu'on est vraiment au bout de la route? Il y a encore beaucoup de chemin, qu'est-ce qui manque?
Oui, bien sûr, je voudrais quand même conclure cette émission en disant que oui, il y a eu du progrès. Oui, la marche en avant est irréversible, mais il y a encore du progrès. Il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à faire. Notamment l'accès des filles à certaines filières, telles qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est encore un challenge. Il y a encore des filières tabous, il y a encore des domaines réservés. Et je voudrais quand même encourager les filles à oser, à croire en elles-mêmes, à se dire que oui, on peut. Parce que le principal blocage des femmes, d'après les études, c'est les femmes elles-mêmes, et il faut qu'elles croient en elles-mêmes, et puis les pouvoirs publics mettront tout en place pour qu'elles aillent de l'avant.
Aïssatou Diengsar.
Il faudrait que ces jeunes filles continuent à croire en elles, à avoir confiance en elles, mais également à encadrer leurs jeunes sœurs pour qu'elles puissent affronter les filières scientifiques. De manière générale, pour les filières littéraires et autres, on n'a pas trop de problèmes, mais c'est au niveau des filières scientifiques qu'on a des problèmes. Mais sinon, l'État va continuer à en tout cas, intervenir pour une meilleure prise en charge de ces filles.
Halima Diallo, sociologue, quel chemin encore à parcourir pour arriver vraiment au bout de la route et à l'égalité?
D'accord. Alors moi, je pense qu'il faut beaucoup travailler sur les imaginaires. Pendant longtemps, les filles sont restées dans leur coin. Elles ont appris à se sous-estimer, à s'auto-censurer. Donc il faudrait qu'elles aillent au devant de la scène. Et il y a quand même beaucoup d'associations au Sénégal, on peut s'en féliciter. Des filles qui font un sérieux travail de coaching, qui vont dans des écoles. Récemment, j'ai été au lycée Kennedy avec un groupe d'amis pour sensibiliser sur les violences faites aux femmes. Donc je pense qu'il faudrait plus de filles, comme elle l'a dit tout à l'heure, qui aillent dans les écoles pour parler de leur itinéraire professionnel. Des femmes aussi qui font des métiers atypiques pour convaincre les filles, leur montrer que c'est possible. Et il faut aussi parler des médias qui véhicule une image de la femme subalterne, soumise. Et ça aussi, il faut essayer de combattre ça. Et tout à l'heure, vous en avez parlé à propos des livres, de toutes ces images. Donc, je pense que si on arrive à faire tout ça, on gagnera ce pari, égalité, que toutes les filles iront à l'école.
Eh bien, merci à vous tous et à vous toutes. Merci à vous, les voisins, les voisines, surtout, pour tous vos témoignages et vos prises de parole. Je suis vraiment désolée pour tous ceux qui n'ont pas pu, toutes celles qui n'ont pas pu prendre la parole, mais vous connaissez aussi notre numéro de téléphone, donc on reste en contact pour participer à l'émission du lundi au vendredi. Et d'ailleurs, on aimerait entendre plus de filles, c'est gratuit d'appeler sur WhatsApp, je vous le signale. Vous pouvez nous appeler tous les jours sur tous les sujets de société, 33 1 84 22 71. 71, on reste en contact. Merci aussi à toute l'équipe sur place, Delphine de Dianous, Nicolas Benita. Demain, 7 milliards de voisins, retour à Paris et en direct pour 7 milliards de voisins avec vos appels. On parlera de l'orthographe, comment écrire des mails sans faute. Voilà une vraie façon de se distinguer au boulot. Vous découvrirez des méthodes très simples, efficaces. Et dans quelques instants, on retrouve le journal à Paris. Merci à vous tous. Dakar.
Musique du monde.